Hey, on va aller voir une autre Superwoman, Danielle Rioux. Salut, Danielle.
Hey, c'est un lourd titre à porter, ça. Hey, Seigneur, ça, mon Dieu, quand on pense. Non, ben peut-être que je l'étais à un certain moment, là, mais plus maintenant, parce que là, je m'offre du temps libre.
Ben oui, il faut
Hein?
prendre du temps libre. Et tu sais, c'est vrai. Je comprends bien, tu évites les cabines téléphoniques.
Oui, je veux du temps libre. Mais c'est ça parce que le temps libre, ça veut dire aussi pour des gens, ça veut dire s'ennuyer, hein? C'est l'art de s'ennuyer. C'est un article, ça a paru il y a pas hier, là, mais en 2023, en mai 2023. Puis je le garde dans mes archives, puis je le ressors. J'ai dit, tiens, donc c'est intéressant parce que la journaliste Olivia Lévy avait fait une entrevue avec Olivier Babeau qui a écrit le livre La tyrannie du divertissement. Et d'ailleurs, en faisant une recherche dans Babelio, c'est très, très bien coté. Les gens ont beaucoup appris à travers ce livre, La tyrannie du divertissement. Mais ça m'amène à vous parler justement de cette fameuse entrevue. On perd en grande partie de notre temps à se divertir. Puis ça nous appauvrit malheureusement intellectuellement et creuse aussi les inégalités. Alors Olivia Lévy pose la question. Vous dites à M. Babeau, vous dites que jamais l'être humain n'a eu autant de temps libre. Parce que sa réponse est le travail ne constitue qu'une part très limitée de notre vie. Au 19e siècle, on va aller en arrière, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est environ 1400, 1600 heures par an. Et l'espérance de vie a aussi augmenté par rapport à ça. Une partie de notre vie libre, sans travail, c'est-à-dire à la retraite, se fait plus tard. Et en France, et dans les années 80, la moyenne de durée de vie à la retraite était de 12 ans, et aujourd'hui, c'est entre 22 et 26 ans. Donc, du temps à combler, on en a. Autrefois, justement, la vie, c'était du travail avec un peu de loisirs, si on avait le temps ou encore si on n'était pas trop fatigué, là, j'ajouterais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont des loisirs et un peu de travail. L'école ne fait pas partie du travail, c'est ce qu'il note, mais bien du loisir studieux. Pour lui, il y a trois catégories de loisirs. Il y a le loisir studieux, justement, le loisir pour les autres et le loisir populaire. Pour lui, le loisir studieux, ça vient de la Grèce antique qui permet d'apprendre, d'améliorer son esprit et son corps. C'est très large et c'est pratiquer un sport, c'est la lecture, jouer d'un instrument de musique. Il y a aussi la méditation qui entre dans ce loisir. Le scolé, qui veut dire école, ça fait partie des loisirs studieux aussi. Ensuite, il y a le loisir pour les autres. C'est le temps social, le temps passé en famille et avec des amis. Et enfin, il y a le loisir populaire, qui est le divertissement, le loisir passif qui ne permet pas de progresser, mais qui occupe la majorité de notre temps libre. Idéalement, il faudrait partager en trois tiers les trois formes de temps libre, mais c'est le divertissement qui l'absorbe complètement notre temps libre. Alors, c'est là qu'il se dit qu'au niveau intellectuel, ça ne nous enrichit pas toujours. La journaliste lui pose la question, vous écrivez que les loisirs accentuent les inégalités et ce pourquoi? Ben, le temps libre d'une grande partie de la population est absorbé par le divertissement, notamment les fameux réseaux sociaux. La première chose qu'il dit à ses étudiants, c'est qu'ils auront tous le même diplôme, mais qu'ils seront jugés sur la façon dont ils utilisent leur temps libre. Est-ce qu'ils auront créé une association ou fait du bénévolat, fait du sport ou de la musique ou encore appris une langue? Et c'est ce qui va faire la différence peut-être au moment de la recherche d'un emploi, entre autres, ou quand ils se présentent pour appliquer pour une activité ou un bénévolat quelconque, c'est ce que j'ajoute. Alors, pour réussir au 21e siècle, on doit avoir la culture la plus large possible pour mettre en relation les savoirs, c'est ce qu'il affirme. Le degré d'exigence cognitive du monde ne cesse d'augmenter et il est de plus en plus dur de comprendre le monde et d'y être un acteur actif ayant de la valeur ajoutée. Et moi, en lisant cela, je pensais à l'intelligence artificielle aussi, hein, pour valider des connaissances que nous avons, pour voir si ce qu'on nous écrit, c'est vrai. Et c'est là que se creusent justement pour lui les inégalités sociales, car le temps libre d'une grande partie de la population est absorbé, comme je mentionnais, par le divertissement et par le temps passé devant les écrans, la télévision et les réseaux sociaux. plus vous descendez dans l'échelle sociale et plus vous regardez les écrans. C'est ce qui affirme. Chez les enfants, le temps d'écran des plus défavorisés est 2 fois plus élevé que chez les plus favorisés. C'est quand même pas mal. Mais elle pose la question. Mais justement, nous passons le plus de temps que jamais devant nos écrans. La technologie, pour lui, vide notre cerveau. On a moins de mémoire, et ça, c'est vrai. Quand on nous demande un numéro de téléphone, on ne s'en souvient pas. Il faut vérifier si notre téléphone cellulaire. Donc, on l'utilise, ce téléphone cellulaire, pour se souvenir d'un numéro de téléphone. Donc, on a moins de capacité d'attention. La technologie, pour lui, nous atrophie, mais en même temps, elle rend le monde plus compliqué et exigeant. Et malheureusement, comme humain, on est pris entre les deux. Aujourd'hui, la vie est plus facile avec un temps de travail limité. On s'offre plus de confort, plus de plaisir, mais nous n'étions pas préparés à cela. Et on nous demande d'utiliser cette liberté avec une forme de discipline, mais il faut de l'autodiscipline. Et l'ennui dans tout ça, hein, étant d'en parler, ça fait partie de nos temps libres. Hein, pour lui, c'est très important de s'ennuyer. L'ennui est fécond, donc pour certains, c'est de la créativité. Il y a plein de génies qui ne créeraient peut-être pas leur œuvre aujourd'hui parce qu'ils auraient été distraits. Et il mentionne, il donne un exemple, Marcel Proust, est-ce qu'il aurait eu le temps d'écrire à la recherche du temps perdu? Et à Victor Hugo, à toutes ses œuvres, on pense aux Misérables, et à toutes les autres, et à Léonard de Vinci qui a peint tous ses tableaux, qui les a pas tous terminés. On s'entend, mais il y a beaucoup plus écrit que peint, c'est ce que j'ai lu récemment. Donc, ce n'est pas un défaut de talent, mais à cause du temps qu'on gaspille devant nos écrans. Il faut être très motivé aujourd'hui pour mettre de côté toutes les séductions offertes par les écrans, Facebook, TikTok, name it, les réseaux numériques. Il faut une discipline de fer pour arriver à s'isoler et à créer une œuvre. Puis il raconte, puis peut-être ça va vous référer la même chose à vous, auditeurs, et à Denis Martin et à Mathieu aussi. Il raconte, quand il était petit, le week-end ou en vacances, on passait des heures en voiture et il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder le paysage et de ne rien faire. Et quand on est dans le métro ou l'autobus, la facilité est de regarder son téléphone, mais il faudrait se forcer à ne rien faire. Vous savez, à rêvasser, laisser son esprit errer, et qui sait, ce sera peut-être fécond. Il faut arriver à faire le silence en soi, parce qu'on vit dans un monde où il y a toujours du bruit ou quelque chose qui suscite notre intérêt. Il faut apprendre à s'ennuyer et à féconder l'ennui. C'est comme je vous mentionnais, c'est un livre qui a une note de 4 sur 5 chez Babelio, les critiques, là, les lecteurs qui l'ont lu. Je vous rappelle le titre, c'est « La tyrannie du divertissement », c'est d'Olivier Babot. Et je pense que ce serait un livre à lire parce qu'il est assez bien coté, donc une belle référence. Puis aussi, je vous pose...
L'éloge, en fait, de la farniente.
La farniente, rien faire, mais rien faire du tout.
Et je vais faire rire à métier que je suis capable de faire ça.
Ah, des fois, il faut que je me fasse une petite discipline, là. Mm-hmm. Mais quand je veux lire, je tasse mes écrans, puis c'est tellement facile. On est drogué à ça, hein. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais lire un peu la presse, puis la presse t'amène à chercher quelque chose d'autre. Et puis bon, mais là, je me fais une discipline. Tu sais, des fois, on dit, j'ai pas le temps de lire. C'est pas vrai. Il faut s'asseoir, puis prendre le temps, s'accorder du temps, faire d'autres choses, ou carrément le silence, hein, puis regarder les murs, s'offrir, j'appelle, des moments d'éternité. Ça, c'est agréable. Ouais. Puis là, on parle d'essence, on voit dans les marchés que ça fluctue, on passe devant des grandes bannières et on dit, ça a augmenté. Dans certaines régions, c'est plus bas à certains moments de la journée. Oups, ça hausse. Alors, il y a Nicolas Bérubé, parce que là, on change de sujet complètement. C'est dans la section affaires de dimanche, le 22. Donc, il parle de la hausse du prix de l'essence à la pompe. Et il dit que tout est relatif si on compare le prix de l'essence aujourd'hui à celui de payé en 2008. Alors, c'est faire le plein est extrêmement bon marché, selon lui. Ben, il dit, vous croyez que je blague? Ben non. Plutôt, il nous réfère en 2008, le prix à la pompe à Montréal était de 1,51 $ le litre, un record qui déclenchait des crises de bacon chez les automobilistes à l'époque. Et si le prix avait tout simplement suivi l'inflation l'inflation à partir de 2008, il serait aujourd'hui à 2,23 $ le litre. Or, il mentionnait que la semaine dernière, le litre était à 1,78 $ le litre, le prix de l'essence à Montréal, une réduction de 20% en 18 ans. Et il mentionne aussi, sans compter le fait que les Québécois se sont enrichis, le pouvoir d'achat a grimpé d'environ 20% en termes réels après l'inflation depuis 2008. Et selon ses réponses, il les a de l'Institut de la statistique du Québec. Alors pour lui, 1,78 $, c'est la petite bière pour Nicolas Bérubé. Il faudrait que le prix atteigne 2,68 $ le litre pour représenter la même douleur, entre guillemets, pour le portefeuille qu'en 2008. Et lui, il est très heureux de s'être acheté une auto électrique de seconde main en janvier dernier. Donc, il est pas là maintenant, c'est fini. Il n'a pas besoin d'être tanné de payer de l'essence. Puis, on se disait, vous et moi, qu'en plus, le prix de l'essence augmente, mais les autos grossissent.
Ah, mais les gens conduisent des chars d'assaut parfois.
Ah oui. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ils vont souffrir. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de clés qui vont être remis chez le concessionnaire. J'ose espérer, ou que les gens vont falloir qu'ils fassent des choix douloureux. Mais bon, c'est la situation que l'on vit partout dans le monde en ce moment. Donc, il faut s'y faire.
Oui, c'est la dure réalité. Puis, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, on se dit, ah, mais si on avait pris le temps d'électrifier, de changer notre dépendance. À chaque fois, c'est dès que l'essence se rebaisse, on retourne aux bonnes vieilles habitudes.
Oui, absolument. Puis nous, on en garde une bonne, hein?
Ouais. On a du plaisir à faire de la radio ensemble.
Oui, merci. On s'écoute la semaine prochaine, on se parle la semaine prochaine.
Tout à fait, merci beaucoup à toi.
Au revoir.
Alors après la pause, on va parler justement du Festival du Bonheur et puis on va aussi parler des rendez-vous du Gris à Montréal. Et un peu plus tard, on va parler de droit, on va parler aussi d'exposition pour les personnes en situation de handicap ou vues par les personnes en situation de handicap. À tout de suite.